France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui a fait de la mélancolie une force et du mot saudade un espace habité, revisité, transcendé. Un artiste qu'on a vu grandir, évoluer, prendre des risques et revenir toujours avec un peu plus de vérité dans la voix. Abou Tal est avec nous pour Monsieur Saudade, partie 2. Un album qui n'est pas seulement une suite, mais une extension de son univers plus intime, plus maîtrisé, plus libre aussi sûrement, mais toujours avec le même amour pour la musique brésilienne. On connaît son parcours, l'aventure avec Dadju, l'époque de Shinsekai, puis l'affirmation en solo et cette volonté constante de mettre sa sensibilité au centre, même quand ça bouscule. On est très heureux de le recevoir pour parler du disque, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a blessé, mais aussi de ce qu'il a relevé. Abou Tal est avec nous jusque 23h à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Abou Tal, comment ça va?
Ça va et toi?
Je suis très heureux de te recevoir, car j'avais adoré Monsieur Saudade partie 1. Je le dis en introduction, merci directement, je te l'avais déjà dit.
Tu me l'avais dit, oui.
Vraiment, c'est un album qui m'a énormément accompagné. Mm-hmm. Donc, je suis très heureux de voir qu'il y avait une forme de deuxième partie ou de deuxième vie à cet album.
Merci.
Et déjà, avant, commençons par le commencement, parce que je l'ai dit, on te connaît depuis longtemps, en tout cas dans le milieu du rap. Et là, c'est un album qui est plus large que ça, même si, évidemment, qu'il y a du rap là-dedans. Qu'est-ce qui explique que tu aies parti comme ça, explorer un autre genre musical, un autre pays aussi, tout en racontant ton histoire à toi? Mais d'où vient cette rencontre avec, avec cette musique-là?
Cette rencontre, elle s'est faite déjà depuis... Enfin, je me souviens de la première fois où j'ai écouté de la bossa nova, j'étais parti à un événement. Et la première fois que j'avais entendu, ça m'avait réellement marqué, mais j'avais pas les outils pour retrouver la musique à l'époque.
Oui.
Là, je te parle de 2005-2006. Et... plus l'ère du digital est arrivée, plus j'ai pu faire mes recherches et plus j'ai pu redécouvrir la musique brésilienne. Et une fois que je suis retombé de temps, on va dire vers 2012-2013, ça m'a jamais quitté. Et j'étais dans le rap, mais je savais pas réellement comment allier les deux en fait. Comment allier mon rap et mon kiff pour la musique brésilienne. Et le fait d'avoir appris la guitare, tout simplement, ça m'a permis de faire le pont entre les deux. Quoi.
C'est à quel moment que toi, tu apprends à jouer de la guitare?
J'ai commencé à apprendre la guitare un peu avant le Covid.
Ok.
Et,
pourquoi? Parce que t'en avais envie?
C'est tout simplement parce que j'avais envie de jouer les morceaux de bossa nova que je kiffe. C'est
okay.
Tout simplement.
D'accord.
Il n'y avait pas d'optique de l'utiliser dans ma musique ou dans mon peura ou un truc comme ça. Tu vois. Donc j'ai appris et au fur et à mesure que je faisais, je commençais à être un peu à l'aise. Je me disais, putain, ce serait bien que je fasse de la guitare sur scène. Et après, je commençais à composer. Et naturellement, vu que j'ai commencé par apprendre tout ce qui est bossa nova et tout ça, et ben, ça a été ça, mes premières compositions.
Okay.
Et voilà, ça a transformé mon art. En fait, ça a été l'outil, l'instrument qui m'a permis de transformer mon art.
Est-ce que ça veut dire que maintenant, c'est ce que tu as envie de faire presque pour toujours? Pour toi, c'était une expérience, c'était un moment, cette période Abou Tal, bossa nova, ou t'as envie d'être un artiste qui fait de la bossa nova parmi d'autres choses?
Non, je pense pas que ce soit une période. En tout cas, moi, c'est un chemin.
Okay.
Quand on s'est rencontrés la première fois, peut-être à l'époque de Shinsekai, jamais j'aurais pensé qu'on se retrouverait dans ce contexte-là, tu vois, de musique brésilienne. Et peut-être que ce sera toujours la même chose dans 5 ans, ou peut-être que ce sera différent, mais en tout cas, je me ferme aucune porte.
C'est pas une escapade, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te constitue aujourd'hui.
C'est le voyage, c'est le voyage, le voyage, tu vois. En tout cas, tant que je kiffe faire ce que je fais, je me vois pas bouger, quoi.
Alors sur Monsieur Saudade, en tout cas sur la partie 1, il y a un morceau que j'aime particulièrement, c'est Maison Margiela.
En moi, je n'ai pas la moindre mauvaise intention. Je veux juste te donner tout le respect, l'attention et l'affection que tu as tant recherché, mais qu'il n'a jamais donné. Donc même si je sais que tu te sens coupable, le vrai coupable, c'est celui qui se pense intouchable. Non, ne doute pas, non, ne doute pas, doute pas. On ressent la même chose, je n'ai rien dans la tête sauf toi, ton regard et ta façon d'être en vacances dans tes vêtements. Maison Margiela.
Quel morceau!
Ah, merci, merci.
J'adore ce titre.
Merci beaucoup.
Vraiment. On parle de ton amour pour la musique brésilienne que tu as découvert dans les années 2000 et puis que tu as retrouvé après. Est-ce que si tu as eu une rencontre avec le Brésil, est-ce que tu y es allé? Ouais. Quel est ton rapport aussi plus largement avec ce pays incroyable?
Ouais, j'y suis allé la première fois, c'était en 2017, fin ouais. 2016, début 2017, et j'étais, je connais bien Black M, oui. Et il était un bouquet dans un festival là-bas,
okay.
Et son manager, il savait que je kiffais le Brésil,
ouais, ouais.
Il m'a dit, ouais, vas-y, prends ton billet, viens avec nous, tu dors avec moi dans la chambre et tout ça, on est parti, et franchement, c'était comme un rêve, hein.
Ouais.
J'avais deux, trois destinations en rêve dans ma vie. Et c'était la première fois, c'était magnifique ça, de vivre la musique brésilienne sur place et tout ça. Franchement, c'est une expérience qui m'a marqué. Et puis j'y suis retourné plus récemment cet été.
Ok. Alors, l'album s'appelle Monsieur Saudade. Et il y avait Bianca Costa qui était dans cette émission la semaine dernière. Donc, on a parlé évidemment de la musique brésilienne. On a d'ailleurs joué un extrait de Maison Margiela la semaine dernière. Mm-hmm. Et on a parlé de ce mot, Saudade, qui est quand même qui est un mot compliqué parce que très dur à traduire, je crois, en français, qui peut revêtir un peu plusieurs significations. Mm-hmm. Et même d'ailleurs, Green Montana aussi avait appelé un album Saudade l'année dernière. Ouais. Pourquoi toi, t'as appelé ton album comme ça et qu'est-ce que ça signifie pour toi?
Saudade, parce que, en fait, Saudade, ce qui est beau, et c'est ce que j'aime un peu, tu vois, dans la musique brésilienne, et ça, ouais, ça, en fait, ça résume réellement, ce mot réellement la musique brésilienne et la bossa nova, parce que la bossa nova, c'est une musique qui est très chaleureuse, qui est triste, et même, en même temps qui est rythmée, donc c'est une musique de contraste. Et le mot saudade, c'est un mot de contraste aussi, parce que tu vois, c'est la nostalgie, pas forcément la tristesse, c'est comme une douleur sucrée, un peu, tu vois. Moi, j'aime bien le définir en douleur sucrée, tu vois. Tu te remémores quelque chose qui t'a fait mal, mais bon, il y a quand même un peu de...
Il y a toujours un peu de sourire, en fait.
Un peu de sourire dedans, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'était le mot qui résumait parfaitement ce que j'aime dans la musique brésilienne, et monsieur, pour faire le pont avec ma culture française, tout simplement.
Qu'est-ce qu'a pu évoluer, en tout cas chez toi, entre la première et la deuxième partie?
Bon, la vie, ça, enfin, le chemin de la vie, tout simplement, déjà dans un premier temps, et puis au-delà de ça, je me suis amélioré sur pas mal de points. Ça reste quelque chose de nouveau, cette forme de aboutal.
Oui, c'est vrai. Donc, pour les gens qui te connaissent depuis longtemps, c'est une nouvelle proposition.
C'est une nouvelle proposition, tu vois. Et donc, c'est une évolution normale de quelqu'un qui fait.
C'est une nouvelle proposition, mais en même temps, t'as quand même toujours été un artiste un peu à la croisée de plusieurs chemins, parce qu'en fait, tu viens du rap, bien sûr, mais t'as chanté assez tôt. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent presque te voir comme un artiste R&B.
Enfin, de fou.
Donc en fait, t'as quand même toujours eu cette espèce d'identité un peu à tiroir, comme ça, hybride. Donc c'est pas complètement surprenant, en fait, qu'aujourd'hui, tu tentes autre chose, en fait.
Non, c'est vrai que quand tu parles de mon parcours de Watibe Shinsekai, c'est vrai que, bon, déjà, je chantais et tout ça, et puis en vrai de vrai, c'est ce que je suis. J'écoute énormément de choses. Le rap, au final, peut-être que ça représente que... Et ça, depuis déjà au moins 15 ans, ça représente peut-être que 30% de ce que j'écoute.
Okay.
Donc, moi, je m'imprègne de ce que j'écoute et je pense que ça, c'est naturel, quoi.
Alors, sur la deuxième partie, il y a également un morceau avec Taiki, un morceau qui s'appelle La Nuit.
Car au-delà du physique, j'apprécie ta vibe. Baby, meurs en loco quand elle fait ce travail. Meurs en loco quand elle fait ce travail. Mais dis-le-moi, s'il te demande, nie-le. Ça reste entre toi et moi. Ne ferme jamais la porte. Tu n'as rien à cacher. Fais-moi miséricorde. Je ne veux rien gâcher.
Là, c'est la voix de Taiki qu'on entend. Donc, Taiki qu'on a reçu aussi dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça. Qui d'ailleurs a annoncé un nouvel album pour l'année prochaine. Alors qu'il devait arrêter, bref. Il arrête pas de nous embrouiller le cerveau, mais c'est un autre sujet. Quelle relation vous avez, toi et Taiki?
Déjà, je tiens à dire que c'est un artiste que j'aime énormément. Ouais. C'est probablement l'un des plus talentueux en France à mes yeux. Et en fait, je l'ai rencontré parce qu'il est produit par un des gars avec qui j'ai grandi, qui est Barak Adama.
Membre de la section d'assaut.
Membre de la section d'assaut, et avec lequel, bon, vraiment, tu vois, c'est...
Parce qu'on l'a pas encore dit, je voulais qu'on y revienne après, c'est vrai, mais toi, ton point de départ, c'est aussi Watibé, donc c'est mon la section, départ, tu les ça, connais très très bien.
C'est exactement, depuis aussi longtemps que je me souviens, je connais Barak et je connais Maska, nos parents, ils se connaissent et tout ça. Donc on a fait un petit bout de chemin ensemble, et il s'avère que Barak a commencé à produire Tech, Et depuis très longtemps, on s'entend bien, lui et moi, musicalement.
Ouais.
Et on s'est toujours dit qu'on ferait une chanson ensemble. On a fait une première chanson qu'on n'a pas forcément gardée. C'était okay. Il y a longtemps, c'était peut-être en 2020. Et là, je l'ai réinvité parce que je le sentais bien sur le morceau.
T'as le sentiment aussi qu'aujourd'hui, tu fais partie de tous ces artistes-là que tu connais depuis longtemps, qui ont... Vous avez commencé parfois avec des étiquettes. Est-ce qu'aujourd'hui, la période aussi, elle est peut-être plus propice pour être libre ?
Totalement.
Il y a un peu ce sentiment-là.
Totalement. Je pense que j'aurais pas pu faire ce projet. Je te disais aussi que j'avais pas la guitare, donc j'avais pas pu faire cette transformation avant. Mais je pense qu'à l'époque aussi, elle m'aide.
Elle joue
aussi à pouvoir m'assumer pleinement et à être compris, tout simplement. Tu vois, parce que je pense que j'aurais été moins compris il y a 10 ans.
Alors, on a de la chance, c'est que tu vas performer. Un morceau en live, un morceau donc extrait de la deuxième partie donc de Monsieur Soda, c'est le morceau, un morceau pardon, qui s'appelle Merci, et que tu vas donc interpréter avec ta guitare. Est-ce que tu te débarrasses de ta guitare des fois ou tu l'as tout le temps avec toi maintenant?
Non, ça va. Je l'ai pas tout le temps avec moi, mais bon après, chez moi il y en a 2-3 et en vrai pour moi c'est comme un jeu vidéo en fait. Quand je suis à la maison, des fois je regarde pas de série ou bien même je regarde une série et je joue avec.
Donc il y a tout.
Et ouais non franchement c'est une belle rencontre, hein, c'est incroyable.
Bon on écoute tout de suite donc un extrait de Monsieur Soda partie 2, j'ai du mal à le dire. Monsieur Soda partie 2, le morceau s'appelle Merci, Aboutal et donc sa guitare avec nous. Tout de suite dans le studio.
Il y a pas longtemps, j'ai recroisé mon ex. On a discuté un peu et je lui ai dit yeah. Si tu me demandes comment je vais, je connais meilleur, connais pire. Si tu savais. Et avec toi, j'ai toujours été vrai, même si ça veut pas dire que j'étais parfait. Car au-delà de l'oseille et du temps, je donnais beaucoup trop de mon énergie. Hier tu es parti, aujourd'hui c'est moi qui te dis merci. Tu m'avais l'air si sincère quand tu parlais d'avenir et de mariage. Mais c'était juste avant que je capte que tu avais pris quoi? Un mauvais virage. Et sous les étoiles, mon bébé s'est perdu dans la nuit. Et c'est toi qui es parti, mais c'est moi qui te dis merci. Oui, j'ai eu mal, je peux pas mentir un peu. J'étais love de tout ce que j'ai cru voir dans tes yeux. Ça m'a pris du time, mais j'ai compris ton jeu. Sûrement préféré que je te déteste. Oh mais je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Elle a pas kiffé du tout.
C'était Aboutal avec le morceau. Merci et merci Aboutal de nous avoir joué ce morceau ici.
Merci à toi Mehdi.
Aboutal est avec nous jusque 23h.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Abou, avant de continuer à parler de toi et de ta musique, un petit jeu. Je te mets 3 propositions à chaque fois.
Okay.
Tu me dis ce que tu enlèves. Tu dois en enlever une à chaque fois.
Okay.
Ce sont évidemment des choses qui te, je pense, te représentent.
Okay.
Paris, Dakar ou Rio.
Ah.
Tu te sépares de quelle ville?
Ouh.
Parce que tu es d'origine sénégalaise. T'es né à Paris, mais t'es d'origine sénégalaise également.
Ouais, je pense que j'enlève Paris.
T'enlèves
Paris, j'en ai beaucoup fait déjà. Beaucoup fait. Et peut-être que j'aimerais bien tester autre chose à un moment dans ma vie.
Donc,
Dakar serait bien ou Rio.
Tu devrais habiter réellement à Dakar ou à Rio, vraiment y habiter au quotidien.
Franchement, Rio, faudrait que je pratique un peu plus, mais pourquoi pas. Franchement, j'ai kiffé la dernière fois où je suis allé.
Ouais.
Et Dakar, après, tu connais, c'est à la maison.
Bien sûr.
Mes habitudes.
T'as appris le portugais?
Non, mais je connais, je baragouine un peu, tu vois.
Okay. Est-ce que c'est...
Me pose pas de questions, franchement.
Non, mais moi, moi, j'en serais incapable. Mais je suis toujours fasciné par, tu sais, ces images de la plage à Rio où tout le monde joue trop bien au foot.
Ouais.
Enfants, hommes, femmes, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que t'as vu ça?
Je te dis la vérité, c'est vrai. Hein.
Cet endroit, pour moi, c'est une carte postale qui peut pas exister tellement ça a l'air extraordinaire.
Et pourtant, c'est vrai.
Ok.
Et pourtant, c'est vrai.
Rap, bossa nova ou R&B?
Rap, bossa nova ou R&B? Ah, c'est très 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 dur.
Ouais.
C'est très 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 dur. Je pense que j'enlèverais R&B parce que c'est rap, je peux pas enlever évidemment parce que c'est moi. J'aurais jamais fait de musique si j'avais pas commencé par le rap.
Bien sûr.
Et bossa en fait, ouais non, je pense que c'est très bien. Ouais, c'est très bien comme ça.
R&B.
C'est très bien.
Est-ce que parfois, tu sais, en préparant l'émission, j'ai réécouté aussi. Des morceaux solo que tu faisais, notamment période avant Ghetto Chic, 2018-2019. Il y a vraiment des morceaux, je trouve, où t'es ce qu'on appelle dans le rap un kicker, un technicien.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a pu avoir une frustration à un moment que les gens ne le disent pas assez, ça? Parce que moi, j'avais un peu fait de certains morceaux où vraiment il y avait un côté.
Kicker.
Kicker, mais assez même prodigieux parfois, dans la virtuose en tout cas. Et finalement, t'étais peut-être pas tant cité que ça à l'époque dans les techniciens du rap. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Est-ce que. Parce que t'es aussi. Là, tu proposes autre chose en ce moment, mais tu sais faire ça. Tu l'as fait dans le passé. Est-ce qu'il y a pu avoir un moment où tu dis, bon, ben finalement, peut-être que, je sais pas, ils ont pas assez vu ça en moi.
En fait, toi, t'es un spécialiste du rap. Tu le vois beaucoup. Enfin, tu connais le rap et tout ça.
J'essaie.
La plupart, le public, il me connaît sous la forme de Shinsekai.
Ouais.
La plupart des gens, ils me connaissent sous la forme de Shinsekai. Et dans Shinsekai, c'était pas forcément ce qui était mis
tout
en avant de moi. Malgré que c'était quelque chose que j'ai fait, peut-être sur des scènes un peu moins visibles. Mais je pense que. Bon, voilà, je pense que c'est vraiment à cause de ça. Mais bon, après, ça me dérange pas trop. Pas non plus. Hein.
Okay.
C'est pas très grave.
Nostalgie, la nostalgie, le doute et la foi.
J'en enlevais un.
Ouais.
Oh, le doute. Le direct. Sans aucune hésitation.
Parfois, ça peut être salvateur, le doute aussi.
Non, le doute, ça peut être salvateur, mais trop de doute aussi, c'est comment dirais-je. Je préfère avoir ça avec l'espoir ou la foi qu'avec le doute. Le doute, il en faut. C'est vrai, tu vois, pour se renouveler, pour remettre en question plein de choses. Mais le doute aussi, ça peut vraiment tout annuler, en fait. Tout annuler et te mettre des menottes, quoi.
T'as douté, toi, justement, avant de revenir aussi même sous cette forme-là?
Il n'y a pas un jour où je doute pas. Hein.
C'est vrai?
Il n'y a pas un jour où je doute pas. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi, ne serait-ce que de faire ça, tu vois, de la guitare. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais ça. Hein.
Ok. Donc tu veux dire performer à la radio?
Et la première fois, c'était aujourd'hui. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
Ok.
Donc
tu doutes avant de faire ça?
Je doute totalement.
Ouais.
Je doute parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est pas comme si c'était quelque chose que j'ai fait depuis que je suis petit. Tu vois, si ça aurait été du rap, tu vois, les.
Oui, si tu demandes de freestyler, voilà, je vais pas le faire, hein, t'inquiète pas. Mais oui, ça c'est facile pour toi.
Les doigts dans le nez, tu vois, et vraiment commencer quelque chose, vraiment, en plus à cet âge-là, et en sachant que ça va pas être parfait, et ben, tu vois, ça met beaucoup de doutes, tu vois. Mais c'est le processus. C'est le processus.
Ça c'est intéressant, pardon, mais parce que tu parles de commencer quelque chose à cet âge-là.
Ouais.
Et ça, c'est vrai qu'il y a un moment parfois où on arrête d'apprendre.
Ouais.
Des fois, on dit, bon, c'est bon, 35 ans, même la trentaine passée, on peut. Être dans une forme de confort ou dans ce qu'on sait faire. Et toi, c'est vrai que t'as fait valdinguer ça, en fait.
Ouais.
Et c'est, mine de rien, c'est quand même une démarche intellectuelle de se remettre dans une position d'étudiant.
Mais totalement.
Ouais.
Et de savoir que c'est pas... Et franchement, honnêtement, c'était vraiment peut-être la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, parce que ça m'a enlevé beaucoup de limites. De savoir que si je sais faire ça maintenant et que j'ose faire ça maintenant et que je me fixe pas de limites, je peux apprendre tout et n'importe quoi.
Ouais.
Donc vraiment, c'était le défi, il était là. Donc
tu peux apprendre le portugais aussi.
Je peux apprendre le portugais.
Ouais, le studio, la scène, ou le petit moment de solitude chez soi.
C'est ce que j'enlève.
Ouais.
Le studio, la scène, ou... le studio, la scène, ou mon solitude chez moi. Ouais, je pense que moi, j'aime bien être chez moi.
Hein. Ouais.
J'aime bien être chez moi et j'aime bien la scène. J'aime moins le studio.
Ah ouais?
J'aime beaucoup le studio. Hein.
Ok.
Mais je préfère la scène totalement et j'aime bien être chez moi aussi.
Est-ce que tu as senti aussi que il y a peut-être un autre rapport à la scène depuis que tu es dans cette configuration-là aussi, qui est peut-être
totalement.
Plus intimiste aussi?
Totalement.
Tu sens que tu prends plus de plaisir peut-être?
Non, je ne prends pas plus de plaisir. C'est différent, c'est un art qui est totalement différent. Comme je t'ai dit, moi, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est, tu vois, je suis de l'école du kickage.
Ouais.
Donc c'est de l'énergie pure, tu vois. Et là, sur scène, je réapprends à canaliser cette énergie parce que déjà, je suis obstrué par une guitare.
Tout à fait.
Et je dois contrôler ma voix et tout ça. Et c'est vraiment un autre métier. C'est réellement un autre métier. Mais franchement, c'est intéressant à apprendre.
Aboutal est notre invité jusque 23h. Et depuis tout à l'heure, on parle un peu des débuts dans ta carrière. Notamment, on a mentionné The Shinsekai, ton groupe. Et pour celles ou ceux qui ne te connaissent pas, ou qui ne connaissent pas cette partie de ta carrière, The Shinsekai, ça ressemblait à ça.
Loin d'ici, c'est pour m'épanouir davantage. Je le vois pas comme une envie de me retrouver solo. Mon quotidien n'évolue plus. Les seules surprises que j'ai se trouvent dans les Kinder qu'on nous offre chaque jour au boulot.
Je sais qu'il y a. Donc, ça, c'est un morceau qui s'appelle Je reviendrai, qui date, je crois, de 2013.
Non, 2011.
2011, autant 11, pour moi. Donc, c'est une autre époque, une autre proposition artistique. Et c'est aussi même un autre son, tu sais, même, c'est vraiment. Début 2010, ouais, comme tu viens de le dire. Donc c'était aussi d'autres, une autre formule, ouais, de rap, chanter, etc. Quand tu réentends ça, qu'est-ce que ça te rappelle? Est-ce que tu voilà comment la rencontre aussi même avec Dadju s'est faite? Vous connaissiez aussi, j'imagine, depuis longtemps avant de créer un groupe ou pas du tout? Raconte-nous comment ça s'est fait avec Dadju.
Ça s'est fait avec Dadju. Moi, j'ai commencé à rapper très tôt.
Ouais. Tu vois.
J'ai fait un projet solo, on va dire, quand j'avais 15-16 ans, et j'ai toujours rappé jusqu'à ce que je rencontre Dadju quand on avait 19 ans.
Okay.
Moi, j'étais déjà à la fac, lui aussi, il était à la fac, et c'est le petit frère de Gims. Donc Gims, oui, oui. Lui, j'ai grandi plus ou moins avec lui.
Et tu connaissais Gims?
Gims, je connaissais très bien. Bah oui. C'est mes premiers textes de rap, je les ai rappés devant eux et tout ça. Mais par contre, c'est le demi-frère de Gims. Donc je l'ai connu plus tard.
D'accord.
Et c'est arrivé une période où voilà quoi, moi je tournais un peu en rond en solo. On s'est rencontrés, lui et moi. Lui il chantait, moi je rappais. On s'est dit bon vas-y, viens on teste des morceaux. On a testé 2-3 morceaux, ça a bien plu, marché. Et on s'est dit vas-y, pourquoi pas faire un groupe. Et on a eu de la chance, ça a bien pris. Et voilà.
Pourquoi ça s'est arrêté?
Bon, ça s'est arrêté pour des volontés de solo.
Ouais, vous aviez ça.
Groupes, en fait.
Ouais, bien sûr, ouais, complètement.
Comme la plupart des groupes, tu vois, c'est une volonté de solo.
C'était une période à un moment et vous aviez envie peut-être aussi d'aller vous sur des aventures en solo.
Exactement, ouais.
Est-ce qu'on on t'en parle encore? Parce que ça a quand même été important pour des gens à cette époque-là.
Bien sûr. Et on m'en parle. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont grandi aujourd'hui, qui me disent « Ouais, j'ai grandi avec ça et tout ça », même si pour moi, ça me paraît hier. Il y en a qui me disent « Ouais, j'ai grandi avec ça, ça fait partie de mes classiques, ça fait partie de plein de choses », tu vois. Donc, et même quand je les chante, des fois, ça m'arrive de les chanter sur scène, certains morceaux de Shinsekai, des fois, ils chantent plus que certains de mes nouveaux morceaux et tout ça, tu vois. Ça fout un peu la rage, mais vas-y, tranquille.
Non, ça, c'est un vrai sujet, parce que mine de rien, des fois, on peut, toi comme d'autres, hein, on peut toujours, des fois, être ramené à des choses du passé, alors que toi, t'es là et tu proposes des choses nouvelles. Ouais. Et parfois, des gens sont attachés à une.
Mais c'est ça. Mais c'est ça.
Faut l'accepter.
C'est faut l'accepter, tu vois. Nous, on aime tous les premiers albums de Mobb Deep. On aime tous les premiers albums. Les classiques, c'est à chaque fois les premiers albums des personnes, quand on découvre, tu vois. Donc, ça fait partie du processus de la musique et ma musique n'y échappe pas, tout simplement.
C'était l'époque aussi, évidemment, tu étais signé chez Watibé.
Ouais.
L'époque était, à cette époque-là, un des labels, sinon peut-être le label en tout cas le plus en vogue dans le rap français. Toi, tu venais d'une scène aussi, voilà, tu étais un rappeur, les freestyles, etc. Comment c'était Watibé à ce moment-là? Est-ce que vous aviez le sentiment d'être tout puissant? Parce que j'avais l'impression à l'époque que n'importe quel projet sans billet Watibé, ça marchait.
Ouais, franchement, ouais, c'était... Enfin, pas le sentiment, pas tout puissant, parce que quand même, tu vois, il y avait quand même une... En vrai, tu vois, le fait d'être dans Watibé, de voir des artistes comme Gims, comme Black M et tout ça, tu sens que, bon, voilà quoi, tu vois, t'es pas encore arrivé, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus gros que toi déjà dans le label, donc en tout cas, moi, je me sentais pas tout puissant. Mais ouais, franchement, c'était une belle époque. Au-delà de... On avait de la chance, on avait beaucoup de portes qui étaient ouvertes parce que, bon, comme t'as dit, c'était Watibé, il y avait des gros artistes. Et Dawala aussi nous a
qui était patron du label.
Qui nous a grave poussé. Donc ouais, franchement, c'était une belle époque. Et puis voilà, la camaraderie aussi au-delà de ça.
Ouais,
parce qu'on était beaucoup, il y avait énormément de groupes. Et ouais, franchement, belle époque de fou.
Est-ce que t'aurais pu, toi, quand tu les voyais commencer, prévoir ce succès massif de la section, est-ce que vous vous disiez que vous avez le potentiel pour être... Enfin, que ce groupe-là avait le potentiel pour être aussi énorme?
Je me souviens pas de m'être dit ça, mais je me souviens de jamais avoir été surpris en tout cas. Parce que moi, je les ai toujours trouvés trop forts. Et bon, moi, j'étais petit, hein, j'avais 12 ans, ouais. 11 ans. Je les regardais avec, vraiment avec des grands yeux. Tu vois. Mais j'ai jamais été surpris de leur avancée, des premières mixtapes qui se donnaient main à main jusqu'à l'apogée. Franchement, j'ai jamais été surpris, en tout cas.
Bon, après toi, évidemment, t'as fait plein d'autres choses. T'es parti en solo et t'as sorti un album qui s'appelle Ghetto Chic, porté notamment par un morceau, Radéville.
J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Je suis beaucoup trop fier, donc je prends sur moi. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Et je mens quand on me demande si ça va. Seul comme un rat des villes, quand tout s'effondre autour de moi. Aux solitudes, ta mélodie, je la connais sur le bout des doigts.
3 et 4.
Seul comme un rat des villes, quand tout s'effondre.
Donc ça, c'est un morceau de 2020, et en fait, là tu chantes déjà, je veux dire, ouais. C'était déjà en toi. Qu'est-ce qui représente cet album pour toi, Ghetto Chic?
Bah, cet album, il représente beaucoup d'apprentissage, beaucoup, le renouveau, et puis réellement c'est ma première prise de parole.
Ouais, solo.
Il y a eu des morceaux avant. Il y a eu des morceaux, mais c'est réellement le premier projet que je faisais, donc ouais, réellement c'est un album important pour moi, et il y a plein de gens aussi qui ont été marqués par cet album, donc vraiment
complètement. Il sort en 2020 au moment du Covid, un peu avant.
Exactement.
Est-ce que t'as eu une frustration à ce moment-là, peut-être de pas pouvoir le défendre, le porter
totalement. Ouais. Notamment sur scène, j'avais des concerts qui ont été annulés, et moi ça a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, ça a toujours fait partie de mes forces, que le live. Donc, ouais, non, c'était un peu une frustration par rapport à ça, mais globalement, c'est quand même une bonne expérience, Ghetto Chic.
C'est là aussi, est-ce que c'est à ce moment-là, peut-être après la sortie de ce premier album, que toi, tu commences à préparer la suite, à réfléchir à comment tu reviens ?
Totalement, ouais. Totalement. Il y a eu un morceau qui était très important pour moi, juste après Ghetto Chic. C'est un morceau qui s'appelle Un homme. Et c'est un morceau qui était justement Bossa. Drill, tu vois, le mélange de fou, tu vois.
Oui, c'était l'époque drill aussi, t'as raison, c'est vrai.
C'était l'époque drill, tu vois. Ouais. Bon, moi, je me retrouvais pas trop dans cette époque-là et je me cherchais un peu, tu vois, parce que je sentais que j'avais besoin de proposer quelque chose de nouveau.
Ouais.
Et au sortir de cet album-là, bah, le cheminement, tu vois, les morceaux, comme je t'ai dit, Un homme et tout ça, ça m'a permis aussi de me trouver sur ce chemin-là, quoi.
C'était quoi, toi, à la base, quand tu commences à rapper, c'était quoi tes influences?
Moi, mes influences,
ouais. Bah,
c'était...
Le rap français,
bien sûr, non, clairement le rap français, la Funky Family, tout ce qui passait réellement à la radio, okay. Et que mes grands frères ils écoutaient, Funky Family, Section d'Assaut aussi beaucoup, hein, parce que c'était réellement mes super héros, tu vois, je les voyais, ils étaient en cercle dans le quartier, ils rappaient, tu vois.
Donc, toi, tu venais de ça, est-ce que tu faisais, toi, ces open mic, ces freestyle dans la rue, tu rentrais là-dedans, t'as participé à quelques
bien sûr, ouais, c'était un peu notre, c'est comme ça qu'on a grandi, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est comme ça qu'on a grandi et c'est comme ça qu'on a appris, et franchement cet exercice, c'est des bêtes d'exercice, parce que ça te... Et c'est dommage que les jeunes le font moins, tous ces trucs de freestyle où ils se retrouvent, où ils font du rap en live, parce que plus rien n'est en live aujourd'hui,
moins
sur internet. Ben, ça t'apprend plein de choses, ça développe ta gestuelle, ça développe ta présence sur scène, ça développe plein de choses, et ta gestion du stress et tout ça. Non, franchement, c'était une belle époque, ça.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau brésilien que tu samples. Enfin, tu samples une des versions sur le morceau Ronaldinho, avec Warren Sada, qui est un classique de la musique brésilienne. Dis-moi la vérité, est-ce que tu l'as découvert avec la pub Nike à l'époque?
Oh, mais totalement.
Voilà, non, mais moi, oui. Moi, voilà, je vais être clair.
Totalement.
Parce que donc, vous allez, quand on va écouter le morceau, tout le monde va le reconnaître. Mais c'est donc cette pub incroyable à l'aéroport pour avant la Coupe du Monde 98, où on voit l'équipe du Brésil, donc de 98, donc, qui joue dans l'aéroport. C'est quelque chose qui t'avait marqué, ça, à l'époque. Est-ce qu'il y avait, parce que dans ton rapport au Brésil, est-ce qu'il y a aussi le football? Peut-être que ça t'a fait rêver cette époque-là.
Totalement. Pour te dire, en 98, lors de la finale, j'ai pleuré parce que.
Oh non, tu vas pas me dire ça. T'étais contre Zizou.
Il était contre Zizou. J'étais pour le Brésil, je sais pas pourquoi. D'ailleurs,
mais t'étais pas le seul. Hein.
J'avais aucune raison d'être pour le Brésil, mais je sais pas.
Elle faisait rêver.
Il y avait un style.
Les chaussures de R9.
Exactement.
Voilà.
Et ouais, non, franchement, le foot aussi, ça, c'est clair, ça a été.
Bien sûr, c'était une équipe qui faisait rêver.
De toute façon, la musique et le foot, c'est les deux choses que j'aime le plus. Donc, c'est sûr que tu dois, que t'aimes le Brésil.
Bon, alors, très bien, parce que j'aurais une question foot pour toi après. Mais très bien, on la garde. Et d'ailleurs, pour une petite info, cette pub mythique, j'ai appris récemment qu'elle a été réalisée par John Woo, le réalisateur, entre autres, de Volteface, de The Killer, etc. C'est John Woo qui a réalisé cette pub pour Nike à l'époque. On va donc écouter la version de Mas Quenada de Tamba Trio. Classique incroyable, ça fait vraiment plaisir de écouter ce morceau avec toi, Boutal. Let's go.
Samba de preto velho, samba de preto azul. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que chegue no final.
Mas Quenada ou Mas Quenada, comment on dit? Je veux bien le dire.
Mas Quenada.
Mas Quenada, voilà, Boutal le dit mieux que moi. Et là, c'est la version donc, de ce morceau classique par le groupe Tamba Trio. Boutal donc est avec nous aujourd'hui pour la sortie de Monsieur Soda 2 qui est sorti vendredi dernier. Et on l'a dit, tu viens d'un groupe. Mm-hmm. Et peut-être que des gens l'ont oublié. Mm-hmm. Et donc, ça m'a donné envie de parler de quelques artistes qui, comme toi, viennent d'un groupe et parfois ça a pu être oublié. Et on en parle évidemment si toi ça t'inspire. Alors j'aimerais commencer par Tupac, figure mythique du rap, star de la West Coast, l'homme derrière All Eyes On Me par exemple. Mais on oublie souvent qu'avant tout ça, Tupac était un membre d'un groupe et un groupe qui n'est même pas si culte que ça pour beaucoup de gens, c'est Digital Underground. À la fin des années 80, au début des années 90, c'est un collectif un peu funk rap décalé, très loin de l'image un peu de gangster qui va définir Tupac après. Et Tupac arrive d'abord comme un danseur, un peu un hype man, puis petit à petit, il place des couplets. Et donc son premier couplet officiel, c'est sur le morceau Same Song en 1991, un morceau fun, presque marrant, à milieu de la gravité et de l'urgence qu'il portera ensuite en solo.
Rock now this. I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me, harass me, but now they ask me if they can kiss me. Get some fame, people change, wanna live their life high. Same song can't go wrong if I play the nice guy.
Claiming fame must have changed now that we became strong.
I remain still the
why
same,
too?
Cause it's the same song.
And all I it's the same song.
Same old song.
J'adore. J'adore ce morceau. Et c'est un peu ça qui est fascinant, c'est que Tupac va devenir une figure politique, tragique, poétique, mais il commence sa carrière au sein d'un groupe qui ne lui ressemble pas vraiment. Et ce décalage ne l'empêche pas d'apprendre quelque chose d'essentiel, la scène, la performance et la discipline du collectif. Et donc quand il sort son premier album solo, Tupacalypse Now, quelques mois plus tard, tout change, fini la funk joyeuse, place à un discours social radical, des textes politiques, un ton grave et une identité artistique très affirmée. C'est un virage total. Le moment où il quitte le groupe, c'est le moment donc où Tupac devient vraiment Tupac Shakur. Incroyable morceau donc présent sur son premier album. Est-ce que t'as écouté un peu Tupac? Ça fait partie de tes rêves ou pas plus que ça?
Pas plus que ça, après okay. J'ai écouté un peu comme tout le monde quoi.
Ouais ouais, ça fait. Tu connais évidemment, mais tu t'es pas buté à Tupac non, dans ta jeunesse. En tout cas, lui aussi donc vient d'un groupe et comme quelqu'un d'autre, Justin Timberlake qui commence avec. Tu te souviens du nom de son groupe? Un boys band.
C'est NSYNC.
C'est pas loin. Et c'est l'un des plus gros boys band de l'histoire. À la fin des années 90, et les chiffres sont monstrueux, des millions d'albums vendus, des tournées gigantesques et une hystérie mondiale. Mais dans un boys band, tout est collectif. On chante ensemble, on danse ensemble, on porte les mêmes vêtements, on partage la même coupe de cheveux. Et donc très vite, on voit que Justin a quelque chose de plus, un grain de voix identifiable, un charisme scénique et surtout une ambition artistique. Quand NSYNC se met en pause, on ne sait pas si Justin peut exister en solo. Et là, en 2002, il sort Justified, un album construit avec les Neptunes et Timbaland qui mélange R&B, pop et funk. Et là, c'est un vrai choc. Il passe de star pour ado à artiste pris au sérieux avec des morceaux comme Cry Me a River, Rock Your Body ou encore Señorita. Tout sonne plus mature, plus dense et tout simplement plus stylé. C'est l'un des premiers moments où la planète pop comprend qu'un boys band peut aussi produire des artistes solo d'exception. Quelque chose d'ailleurs qu'on retrouvera un peu plus tard avec One Direction. Donc Justin prend le contrôle total de son image, développe un univers visuel, une gestuelle, un son. Et après, avec l'album suivant Future Sex Love Sounds, il bascule carrément dans la pop futuriste. Il ne quitte pas seulement un groupe, il quitte un genre, une époque, une perception et sort l'un des albums les plus importants de la décennie 2000. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Est-ce que ça, t'as écouté?
Ah bien sûr, ça par contre j'ai saigné. Ça
t'as saigné. Vraiment moi, t'as une préférence pour le début ou cet album-là avec Timbaland? Parce que là, le deuxième album, le premier il y avait Neptunes, Pharrell, Chad Hugo et Timbaland qui a fait Cry Me a River. Le deuxième c'est intégralement Timbaland je crois et je le trouve encore plus dingue moi.
Franchement moi c'est Future Sex que j'ai que j'ai réellement saigné qui m'a touché. Après 2020
oui qui arrive après qui est important aussi, aussi
qui est incroyable.
Ouais qui est incroyable c'est vrai.
Enfin moi dans mon cœur c'est Future Sex.
Ouais.
Mais si je dois donner le meilleur album quand même c'est 2020 je pense.
Ok ah ok intéressant qui est aussi un album produit avec fait avec Timbaland aussi.
Exactement.
Qui arrive quelques années après il y avait le morceau notamment Suit and Tie avec Jay-Z en collaboration tout à fait. Est-ce que quand tu vois, alors t'étais peut-être plus jeune aussi, mais quand tu vois Justin arriver en artiste R&B, est-ce que tu le prends au sérieux au début, ou est-ce que tu te dis oui, il sort d'un boys band, il y avait quelque chose d'un peu méfiant de ta part, ou tu l'as directement pris au sérieux?
Bah franchement, honnêtement, moi j'ai appris longtemps après qu'il faisait partie d'un groupe, donc pour moi j'ai Justin, c'est Justin quoi.
Ok, en plus c'est vrai qu'il y avait aussi l'histoire avec Britney Spears. Il y a vraiment tout un moment pop dans la pop culture qui était assez important quoi. Autre exemple, avant Beyoncé, avant Zayn, avant Harry freestyles, il y a un artiste qui a posé ce modèle, c'est Robbie Williams, ex-membre de Texat. Donc Texat, on est au début des années 90 en Angleterre, et c'est un boys band, chanson sucrée, chorégraphie millimétrée, hystérie totale. Et pourtant, Robbie n'est pas le membre préféré du management, il est imprévisible, plus rock, plus rebelle, pas vraiment dans la bonne case. Et en 1995, il claque la porte. Tout le monde pense alors que c'est une erreur, Texat reste une machine à tube, et Robbie n'a rien prouvé en solo. Et pourtant, dès son premier album, il montre une personnalité totalement différente, plus adulte, plus drôle, plus dramatique, peut-être plus britannique aussi. Et puis arrive un morceau, Angels, un titre immense qui devient l'un des hymnes pop les plus populaires au Royaume-Uni. Robbie passe d'enfant terrible du groupe à entertainer total. Donc les albums vont s'enchaîner, chaque fois plus ambitieux. Il remplit des stades, devient une star mondiale, alors que le groupe Texat, lui, va se séparer. Robbie Williams devient le prototype du membre du groupe qui explose en solo au point d'effacer l'aura du groupe d'origine. I don't wanna... C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Robbie Williams vient d'un groupe. En plus, Texat, c'est un groupe qu'on ne connaissait pas tant que ça en France, finalement. Ouais. Est-ce que c'est un artiste que tu as pu écouter, ça, ou moins, c'est moins ta, ton
Robbie
école
Williams, non. Je crois que c'est lui qui avait Feel. I just wanna feel.
Je crois que c'est ça, exactement, okay, tout à fait.
Ouais, que cette chanson, ouais, que je connais.
T'écoutes un peu la pop, ou pas plus que ça?
Enfin, pas au-delà de ce que j'entendais, okay, dans les radios et à la télé.
T'écoutais la radio quand t'étais plus petit?
Ah oui. Ouais. Moi, je suis un enfant de la radio, je suis un enfant d'enregistrement des cassettes et tout.
Ah
ça.
Ah ouais, tu faisais
ouais,
ça?
Ouais.
Okay.
Les deux boutons, là.
À bout à
les jeunes d'aujourd'hui, il faut pas savoir ce que c'est.
Ah non, mais ça n'existe pas. Ouais, est-ce que t'avais un Discman plus jeune?
Ah oui.
Tu sais, c'est un lecteur CD, un baladeur en fait.
Un baladeur, cassette, Walkman, tout ça, j'ai eu.
Ah, terrible, quelle époque. À bout à l'est avec nous jusque 23h.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Aboutal, j'aimerais plonger un peu dans tes souvenirs. Mmh. Est-ce que tu te souviens de ta première vraie session studio?
Ma première vraie session studio?
Ouais. Ça ressemblait à quoi?
C'était dans le 18e, chez un gars qui rappait et qui avait une petite installation. Enfin, c'était un home studio en vrai.
Ouais.
C'était un home studio. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait MSD. Et cet artiste qui s'est... Un groupe du 18e. Mentalité sont dangereux. Et il s'appelle Datchag. Et big up à lui si un jour il entend ça. Et c'était mes premières sessions. On venait 10€ de l'heure. On venait là, qu'on rappait. Et c'était Screech de Demolition qui m'avait payé ma première session.
Incroyable. Donc Screech de Demolition. Demolition qui est un média rap très important. Et Screech qui est un homme de l'ombre. Mais qui travaille, qui a fait beaucoup de choses. Qui est... Ok, incroyable. Et je crois qu'avant, on a parlé de Shinsekai, mais avant, t'avais un autre groupe.
C'est ça, ouais. Classé X.
Classé X, avec un K.
Ouais, c'est ça, exactement.
K-L-A-C. Non, C-X.
C'est ça, ouais.
Est-ce que tu te souviens de ce groupe? C'était avec... Ça a été un peu sérieux? C'était vraiment un groupe quand vous étiez gamin, ou ça a quand même continué un peu après?
Non, ça a été... Enfin, en fait, en vrai, c'était vraiment de 12 ans jusqu'à 16 ans, on va dire. Okay. Donc, on n'a jamais eu d'ambition professionnelle, ou tu vois, de percer ou quoi que ce soit. Et, mais en tout cas, ouais, non, franchement, c'était un groupe où on a kiffé. Et voilà, on a fait nos petits freestyles, nos petits trucs, nos petits sons, les sortait sur Skyblog. Et voilà quoi.
Tu te souviens de ton premier texte ou pas du tout?
Ouais. Enfin, je me souviens des phrases comme ça.
Tu parlais de quoi?
En fait, je parlais de ce que j'étais plus fort quoi.
Ah oui, c'est ça, c'était l'ego trip.
C'était ça.
Ouais. Ta première rencontre avec Dadju?
Ma première rencontre à Wati Boutique.
Ok.
Wati Boutique de Châtelet. Je me souviens, j'étais shorté de la bibliothèque. C'est Beaubourg là.
Oui, oui.
Moi, j'étais en L1 et lui aussi, il était en L1, tu vois.
Ok.
Donc, je révisais souvent là-bas et je passais voir mes gars des fois à la Wati Boutique. Et un jour, il était là-bas, on s'est croisés et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
T'étudiais quoi en L1, toi ?
Échanges internationaux à Créteil.
Ok. Ouais. C'est pour faire quoi ? Tu sais pas encore ? T'avais un plan ou tu savais pas forcément ?
Non, c'est juste que j'aimais bien les langues et tu vois, dans les échanges internationaux, il y avait des langues, mais ouais, non, je pense que c'est pour faire du commerce international.
Ok. Ouais. Là, le moment où tu as compris que Monsieur Sodad avait touché les gens ?
Le moment. Trianon.
Ok.
Trianon, j'ai été surpris parce que c'est une nouvelle forme. Une nouvelle forme de performer déjà, ouais, dans un premier temps, et un public aussi qui réagit différemment. Et vraiment, c'est sur scène. Et encore là, il n'y a pas longtemps, j'étais en concert à Lille. Et de voir que les gens chantent mes chansons, tu vois, des trucs que tu as imaginés dans un coin de ta tête et que les gens le ressentent et le vivent et ressentent exactement l'émotion que tu as eue quand tu as fait cette chanson, et ben ça, réellement, ça n'a pas de prix. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je ne suis pas fou. Parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, tu peux te dire...
Est-ce que je suis à côté de la plaque ?
Est-ce que je suis à côté de la plaque ? Ouais. Est-ce que je suis truc ? Est-ce que je me... Mais en fait, quand ça touche le cœur, là, non, vraiment, ça fait vraiment plaisir, vraiment.
Est-ce qu'il y a un morceau sur cet album, les deux parties comprises, dont tu es particulièrement fier ? Tu dis, là, c'est une belle chanson, quand même.
C'est une chanson qui s'appelle Système solaire.
Ok.
Système solaire, c'est une chanson d'amour, une chanson que j'ai composée. Et c'est une espèce de valse à trois temps, tu vois. Et c'est pas quelque chose de vraiment commun. Donc, je suis fier de cette chanson. Et parce qu'elle touche les gens. Et encore une fois, il y a des gens qui... C'est des chansons où tu te dis, quand t'écoutes ton album, tu te dis, bon, vas-y, celle-là, elle va pas trop marcher, elle va pas trop... Mais quand tu vois que réellement, c'est ces petites chansons-là qui touchent réellement les gens et qui créent un lien entre toi et, ouais, toi et eux, et ben c'est une fierté. Donc ouais, je dirais cette chanson, Système solaire.
Bon, c'est disponible en tout cas sur Monsieur Sodad, partie 2. Un album où, voilà, tu fais de la bossa nova, en tout cas, et tu t'es inspiré, enfin, plus que ça, tu t'es... Imprégné, voilà, de la musique brésilienne. Et il y a un artiste qui, sur son dernier album, lui aussi, est allé voir du côté du Brésil. En tout cas, le temps d'un morceau, c'est Josman. Je pense qu'on écoute ce morceau. C'est un morceau qui s'appelle Mateus, qui est très très chaud aussi dans une ambiance très baile funk. Si tu l'as pas écouté, tu me diras ce que t'en penses. Vraiment, le morceau est très chaud. Josman, Mateus, tout de suite.
Tout de bien, grâce à Deus. Je pète une bouteille de Mateus. J'ai le flow de Brésil vini. Elle est sexy à l'infini. C'est pas fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est pas fin, y'en a d'autres qui vont cry. C'est pas fin, y'en a d'autres sur la paille. Qui se lèvent tôt pour cette maille, carrément. J'ai tout vu, même l'envers du décor. J'ai même vu en dessous de l'iceberg. J'suis dehors comme un chat de gouttière. J'sais qu'il reste pas qu'un tas de poussière. La nuit tard, j'ride seul sous la lune. J'ai du mal à traverser la brume. Sur le bitume, trop d'amertume. J'tire, j'fume, j'fly sur Neptune. J'prends mon dû, j'prends mon bif, j'm'arrache. Que la mifle reste nique sa race. Tout de bien grâce à sa Deus. Sur la plage pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, je connais le prix de l'erreur. La ville m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien grâce à sa Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est pas fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est pas fin, y'en a d'autres qui vont cry. Carrément, j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. Je me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, fala comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Désolé, je n'aime pas ce jeu. On ne joue pas avec le feu. Je prends sur moi pour contenir les nerfs. Le seum remplit le container. J'étais en chien devant l'abribus. Scam pour des habits de luxe. J'ai réclamé la paix dans mes prières. Je sens la zèbre alourdir mes paupières. Je regarde la ville à travers la window. Dis-moi tout bébé, falla conmigo. Ma chérie veut un dernier drink. Dans le noir, je mets le plaque dans le pink. La nuit, je ne dors que d'un seul œil. Je pense qu'à remplir le portefeuille. Je prends mon dû, je prends mon bif, je m'arrache. Que la mifle reste nique sa race. Tout de bien grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, je connais le prix de l'erreur. La ville m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien grâce à sa Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est pas fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est pas fin, y'en a d'autres qui vont cry. Carrément, j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, fala comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le.
Josman, Matheus, verdict à Boutal.
Très 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 chaud, je kiffe.
Très chaud, bon, et c'est extrait de son dernier album.
À la régulière, Mehdi Maizi sur France Inter.
À Boutal, c'est l'heure des recommandations. Et tu m'en as donné une.
Ouais.
Un manga.
Ouais.
Alors, moi, je suis vraiment pas manga du tout, j'ai une culture. Mais je connais ce manga au monde. Non, c'est Berserk.
Ouais.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce que tu dirais si tu devais vendre ce manga ?
Bah, c'est difficile de le vendre. C'est quelque chose qu'il faut vivre, Berserk. Ouais. Réellement, c'est moi, là. C'est vraiment l'un des chocs les plus forts que j'ai eu en regardant une œuvre artistique.
À ce point-là ?
Ouais, réellement, okay. réellement.
Toi, t'as une grosse culture manga à la base ? Tu en as consommé depuis longtemps ?
Oui, j'en consomme beaucoup. J'en ai consommé depuis que je suis petit. Et Berserk, réellement, pour moi, c'est le meilleur manga. C'est mon meilleur manga, en tout cas. Et je pense même que c'est le meilleur manga. C'est un truc assez médiéval. C'est de la dark fantasy. Et vraiment, pour tous ceux qui aiment la dark fantasy. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dynamiques entre les personnages, c'est vraiment quelque chose qui est ressemble à la vraie vie au final, tu vois. Donc c'est ça que je kiffe dans ce manga. Et voilà, les dessins aussi, c'est vraiment peut-être le top 3 des mangas les mieux dessinés, tu vois. Pour moi, c'est le 1, bien sûr. Il y en a qui diront le 2, mais généralement c'est 1 et 2, quoi. C'est Kentaro Miura en plus qui est décédé il y a pas très longtemps, mais
qui est le créateur.
Qui est le créateur, ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que quand t'étais petit, tu regardais quoi? Enfin, quel genre de manga tu regardais quand t'étais petit? C'était les Dragon Ball,
Club Dorothée. Ouais.
T'es un enfant du Club Dorothée,
ah, oui,
quand même.
Bien sûr, okay. bien sûr, totalement. Mes grands frères, enfin mon grand frère, il a 4 ans de plus que moi, donc on regardait ça ensemble. Et ouais, on a commencé les mangas par là, et ensuite One Piece, ensuite Naruto, ensuite.
On se rend pas compte à quel point le Club Dorothée a été. Sans, je sais pas s'ils l'ont conscientisé à l'époque, mais une vraie porte d'entrée vers
totalement.
Toute une culture pour des gamins qui savaient pas forcément que ça venait d'Asie, etc. Mais ça nous a donné une culture. Enfin, c'est
clair,
incroyable en fait.
Clair, si le manga existe aujourd'hui, je pense que le Club Dorothée y est pour beaucoup. Tu vois,
ouais.
Si t'as des Japan Expo, des Manga Expo chaque année, c'est que c'est réellement, tu vois, déjà Dragon Ball, c'est la porte d'entrée pour plein de gens dans l'univers du manga. Et Dragon Ball était chez Club Dorothée, donc indéniablement, je pense que ça a joué.
Est-ce que pour la construction de cet album, t'as écouté d'autres choses? T'as écouté de la musique? Est-ce que t'écoutais beaucoup de musique brésilienne ou peu de choses? Enfin, comment est-ce que t'as puisé aussi ton inspiration en d'autres albums pour construire la partie 2 de Monsieur Soda?
Non, pas particulièrement.
Ouais.
Pas particulièrement. J'écoute ce que j'écoute d'habitude, ça veut dire beaucoup de R&B.
Ouais, toujours.
De la musique brésilienne aussi, énormément,
ouais.
Toujours. Et c'est surtout ces deux trucs en ce moment que j'écoute.
T'es allé creuser dans des vieux albums aussi de musique brésilienne
En fait, ce que j'écoute de musique brésilienne, généralement, c'est vieux. Hein.
Ouais.
C'est rarement de la musique récente, tu vois.
Okay.
À part si, il y a quand même quelques trucs dans un style de musique brésilienne qui s'appelle la pagode, que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup. Sinon, c'est ancien ce que j'écoute.
À Boutal, on discute depuis longtemps, mais c'est l'heure.
Let's go.
De la question qui tue.
Let's go.
Tu m'as dit que ce que tu aimais le plus au monde, c'était la musique et le foot.
Ouais.
Et je te pose la question, pour toi, quel est le meilleur joueur de football brésilien de l'histoire?
C'est simple, c'est très simple pour moi.
Bah, si c'est simple, tu vas me le dire, mais...
Ronaldinho Gaúcho.
Ok.
Ouais, Ronaldinho Gaúcho.
Pourquoi?
Parce que, tout simplement, c'est au-delà... Ok, il y a des joueurs... On les aime ou on les déteste. Mais si, c'est le meilleur joueur de la planète, de tous les temps peut-être.
Oui.
Il y a certains qui l'aiment, certains qui le détestent.
C'est vrai, ça existe.
Cristiano, pareil. Maradona, pareil.
Zidane, moins. Je pense.
Zidane, moins.
En tout cas, dans ce pays, c'est sûr que non.
En tout cas, c'est sûr. Tu vois. Peut-être en Italie, où peut-être il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais en tout cas, Ronaldinho, partout, au-delà de ne pas être détesté, c'est le seul joueur que tout le monde aime.
C'est vrai.
Quelqu'un, quand tu le vois... Quand tu le vois jouer, il te fait sourire, il te transmet une énergie positive, tu vois. Au-delà du football, et c'est ça que je trouve réellement magique chez Ronaldinho. Et il te fait rêver, il t'envoie des gestes que, tu vois, qu'on n'avait jamais vus à l'époque. Et avec le sourire, tout simplement. Mmh. Avec le sourire et aussi, c'est un joueur facile. Ça veut dire que ce n'est pas le joueur qui a le plus bossé. C'est pas le joueur qui a été le plus sérieux.
Ouais.
Mais c'est un joueur qui a tout gagné. Ballon d'or,
c'est
Coupe du Monde, tu vois. Donc en vrai, en termes de taf et de trophée, je pense que c'est lui qui a la meilleure moyenne.
Et il y a toujours, tu sais, avec lui, cette frustration de se dire, vu le talent qu'il avait, il aurait dû avoir 4 ballons d'or, il aurait dû avoir 3 Ligues des Champions, il aurait dû avoir 3 Coupes du Monde. Tu sais, il y a ça aussi sur Ronaldinho, sur ce côté. Finalement, son prime, ouais. Il n'a pas été, même s'il a tout gagné, il n'a pas été si long que ça.
C'est vrai, mais en tout cas, je pense que lui, déjà, il s'est fait plaisir parce qu'il a tout gagné.
Ouais.
Et voilà, il a fini son jeu. Il a fini son jeu. Et ouais, après, bon, moi je pense que déjà, gagner une Coupe du Monde, un Ballon d'Or, et il a tout gagné au final.
Ligue des Champions.
Copa Libertadores, ouais. Copa América. Il a tout gagné, et je pense que, ouais, non, franchement, tu peux pas le critiquer en tout cas.
Deuxième question qui tue.
Ouais.
J'ai jamais fait ça.
Mm-hmm.
Ronaldinho ou Zidane? Après, c'est déchéance de nationalité, hein, selon ta réponse. Attention, hein, ça peut aller très loin, je te le dis.
Non, sincèrement, tu veux que je te dise la vérité? Désolé de te fâcher, hein, Mehdi. Hein. Désolé de te fâcher. Mais Ronaldinho, moi, il m'a fait plus rêver.
Okay.
Il m'a fait plus rêver.
Parce qu'aussi,
il a joué à Paris aussi.
Ouais.
Et c'est ça aussi qui change tout. S'il n'avait pas joué à Paris, je pense que j'aurais pas eu peut-être la même attache,
ouais.
Mais réellement, le voir à Paris. Et en fait, j'ai aimé le PSG avec lui, quoi, presque, tu vois, un peu avant quand même,
mais
j'ai aimé le PSG avec lui. Et cet amour du PSG perdure jusqu'à aujourd'hui, et donc ouais, non, Ronaldinho m'a trop fait rêver.
Aboutal, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, vraiment, c'était
merci
un plaisir.
À toi, un plaisir partagé.
Vraiment, on rappelle donc que Monsieur Sodat, partie 2, mais l'intégralité est disponible sur les plateformes. Allez, écoutez ça, par pitié. Merci beaucoup d'avoir été là, Aboutal, et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission. Une émission préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert, et la technique ce soir, c'était Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve lundi, même heure, avec Made In dans l'émission. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.